France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Ils promettent un nouvel acte des changements en profondeur. Le président Emmanuel Macron annoncera ce soir sa première liste de mesures post-grand débat dans une allocution prévue à 20h. Emmanuel Macron donnera ensuite mercredi, c'est-à-dire après-demain, une conférence de presse. Un mois après la fin officielle du grand débat national et 5 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, le chef de l'État pourrait notamment annoncer des mesures fiscales. L'hôpital est malade, il est grand temps de se mettre à son chevet. C'est ce que réclament 8 syndicats de l'AP-HP à Paris qui appellent à la grève illimitée dans les urgences de plusieurs hôpitaux parisiens. Les établissements de la Riboisière, la Pitié-Salpêtrière ou encore Saint-Louis sont touchés depuis hier soir. Le personnel réclame de meilleures conditions de travail mais également plus de sécurité face aux agressions de plus en plus fréquentes. La sécurité, c'est ce que doivent assurer justement les brigades déployées à partir d'aujourd'hui en Ile-de-France autour des lycées. 3 brigades composées chacune de 5 agents sont financées par la région. Elles visent à favoriser la médiation, à sécuriser aussi les abords des établissements et à intervenir en cas de besoin. Le Parti social-démocrate remporte d'une très courte tête les élections législatives en Finlande grâce à 17,7% des voix contre 17,5% des voix pour le parti eurosceptique anti-immigration des vrais Finlandais. Le tout dans un contexte d'inquiétude pour l'avenir du système de protection sociale dans le pays et la politique en matière de migration. Au moins 121 personnes sont mortes en Libye. Les combats y durent depuis plus de 10 jours maintenant entre les forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays, et celles du gouvernement d'Union nationale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il y aurait plus de 560 blessés.
Chaque jour à 16h sur France Culture, la méthode scientifique par Nicolas Martin.
Nous avons mis les petits plats dans les grands cette semaine dans la méthode scientifique avec 2 prix Nobel, Donna Strickland et Gérard Mourou pour nous parler des lasers. L'immense auteur de science-fiction Alain Damasio pour son nouveau roman 15 ans après la Horde du Contrevent. La patronne du CERN, Ursula Basser, et le président du CNES, Jean-Yves Le Gall, pour parler des sciences au niveau européen à quelques semaines des élections, ainsi que Marc Janson, botaniste au XXIe siècle, sans compter que nous essaierons difficilement, mais méthodiquement, de nous débarrasser du plastique.
La méthode scientifique, de lundi à vendredi à 16h, et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Comment décrire sa passion pour un écrivain comme Samuel Beckett? Comment l'expliquer? Comment l'écrire? Michel Crépu s'adonne à un exercice d'admiration qui ressemble à un match de boxe fatal, comme il le dit lui-même. Mais au final, ça donne un essai aussi court qu'intense, un essai qui vient de paraître aux éditions Arléa. Titre de l'ouvrage, Beckett, 27 juillet 1982, 11h30. Vous êtes bien sur France Culture, la radio des passions et des savoirs partagés, et le réveil culturel avec Corinne Amar, Maël Ray, Alain Joubert et Vincent Bouchard. C'est parti.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Michel Crépu.
Bonjour.
Alors le titre de votre essai donne une information et c'est une belle fausse piste. Je m'explique, votre livre édité donc dans la collection Rencontres chez Arléa a pour titre, je viens de le préciser, Beckett, 27 juillet 1982, 11h30. On devine aisément que c'est le jour et l'heure où vous avez rencontré l'auteur de Oh les beaux jours. Mais le livre, en fait, ne s'attarde pas trop sur la rencontre de l'étudiant en maîtrise que vous étiez alors avec le grand écrivain. Autour de Beckett, vous convoquez d'autres figures. Joyce, par exemple. Joyce d'abord et avant tout. D'ailleurs, dites-vous, en réalité, la seule chose qui m'importait en allant voir Samuel Beckett, c'était de parler à quelqu'un qui avait parlé à Joyce, de serrer la main à l'homme qui avait serré celle de l'auteur d'Ulysse. Et en matière de littérature, c'est toujours vous que je cite, en matière de littérature, je crois au fluide, à une logique merveilleuse de la transmission. Et à propos de transmission, Michel Crépu, Beckett, c'est aussi le bel homme qui ressemblait à votre grand-père, dites-vous.
Oui, et c'est une grande surprise pour moi que de voir surgir tout à coup la figure de mon grand-père d'un monde qu'il ne connaissait pas. Mon grand-père était très respectueux de la littérature, mais comme quelque chose qu'il ne fréquentait pas, auquel il n'avait pas accès, il pensait qu'il n'avait pas accès. Et donc, il savait que moi, j'étais un passionné de livres. Et on en parle un peu, mais je n'ai jamais eu de conversation avec Beckett, avec mon grand-père, sur Beckett avec mon grand-père. En revanche, ce qui m'a surpris, en effet, en écrivant ce livre, c'est de voir, de revoir mon grand-père accomplir des gestes de quotidienneté extrêmement simples. Ouvrir une bouteille, découper une tranche de saucisson, réparer un vélo crevé. Et c'est ça, en réalité, qui m'a rappelé à Beckett. La netteté et la simplicité. Et le sens du fait, du fact, comme on dit en anglais.
Et pour vous, l'idée, c'était d'expliquer l'univers ou les styles de Beckett sans passer par les textes, par l'explication des textes ou la tentative d'explication des textes de Beckett?
Alors, il faut être aussi là, faire preuve d'honnêteté minimale, parce qu'en réalité, je n'ai connu Beckett d'abord que parce qu'un professeur d'université, Bruno Versi en l'occurrence, et j'ai plaisir à le nommer, faisait cours sur l'innommable, un des grands livres de Beckett, et que c'est ce cours-là, à Sancier, fin des années 70, je sortais de mon service militaire en 74, pardon, et c'est là que Bruno Versi a été la première personne à me parler de Beckett, dont j'avais entendu, mais bien sûr, je connaissais Godot, etc., mais c'était une connaissance très superficielle. Et là, tout à coup, nous sommes entrés dans le monde du langage de Beckett, et c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Le langage de Beckett?
La langue de Beckett et cette façon incroyable qu'il avait de dire des choses, là encore une fois, extrêmement simples, mais vertigineuses. Et cela m'a d'autant plus frappé en relisant ces textes pour écrire le livre, de constater à quel point il y avait bien une langue musicale de Beckett, qui n'était pas forcément là où on croit qu'elle est, mais ça c'est un autre point. Mais Beckett commentait à l'université, il y a une sorte de mainmise un peu de la grosse métaphysique avec sa grosse armada de néant, de silence de Dieu, de choses comme ça qui sont par ailleurs aussi respectables, qui ont des choses à dire. Mais la vérité profonde du texte de Beckett, des livres de Beckett, est beaucoup plus simple, encore une fois. C'est le mot qui sur lequel j'insiste le plus et que je me suis redit en lisant ces livres que je n'avais pas ouverts depuis 20 ans.
Tout texte confondu, hein, ceux écrits en anglais, oui. Ceux écrits en français.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je n'ai pas fait une relecture intégrale. Je me suis promené. J'ai été voir comme ça ce qui m'attirait. Et en effet, j'ai pris du temps pour faire un peu le passage de l'anglais au français dans la mesure où je le pouvais, notamment pour l'innommable. Des textes dont certains n'ont pas déçu, mais je voyais bien qu'ils n'avaient plus rien à me dire. C'est comme ça avec les livres. Hein. Il y a un moment, un livre se tait parce qu'il a ce qu'il avait à dire a été prononcé. Et donc,
diriez-vous, Michel Crippu, que le texte est dépassé?
Il y a certains moments dans la relecture où on éprouve un peu ce sentiment, oui, non pas dépassé, le mot
démodé. Quel mot mettriez-vous pour expliquer justement cette sensation?
Un mot peut-être de simplement qui de l'âge, enfin. Un peu quelque chose qui a rapport avec la vieillesse ou quelque chose qui fait que il y a une sorte de fatigue peut-être du texte, mais tout ça n'est pas grave, enfin c'est très normal et il n'y a pas eu de déception terrible comme on pourrait parfois ne pas s'y attendre et être saisi de stupeur en se disant mais comment ai-je pu aimer un écrivain pareil aussi nul, là c'est pas le cas.
Et à contrario, est-ce qu'il y a des textes de Beckett qui gagnent en intensité aujourd'hui, quand vous les relisez aujourd'hui, Michel Crépu?
Les textes que j'ai aimés profondément il y a 20 ans étaient les mêmes aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de changement. Simplement, les derniers textes des dernières années, des années de la fin des années 80, qui sont d'ailleurs à la frontière de la musique, enfin Beckett a beaucoup été quelqu'un qui fréquentait énormément la musique et ça se sent très fort, surtout à la fin, ces petits textes qui sont murmurés, qui sont faits pour le théâtre, qui sont faits pour la scène, qui sont faits pour la voix. Là, j'ai trouvé que je redécouvrais, enfin, ou plus exactement, je découvrais vraiment ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La grande différence entre c'est une chance de pouvoir relire à 20 ans de distance. On n'a pas toujours cette chance.
Même 30 ans, ce qu'il faut.
Même 30 ans, oui, voire même 40, à vrai dire. Et donc, c'est une grande chance parce que ça permet en effet de voir des choses qu'on ne voyait pas parce qu'on était préoccupé par d'autres questions. Et Beckett, évidemment, pour moi, c'est un des aspects du livre très important, était lié aussi à un goût profond de l'expérience spirituelle, de la fréquentation du monde monastique, qui est aussi un monde pour qui la lecture et la musique est fondamentale. C'est le point commun aussi, là. Donc, tout ça est... Et je me suis rendu compte, en écrivant ce livre pour Arléa, je me suis rendu compte que tout ça était encore en travail, en réalité. Certains textes, non. Certains textes sont clos. Peut-être des textes de théâtre un peu trop vus, trop entendus. Oh les beaux jours, de Godot. Quoique, Oh les beaux jours est une pièce merveilleuse, et donc il y a aucun dépit de ce côté-là. Mais peut-être qu'il y a, voilà, la chose a été accomplie.
Mais pour reprendre votre début dans l'univers de Beckett, pour reprendre L'Innommable, moi ce que je vous propose, Michel Crépu, c'est d'écouter un extrait de L'Innommable, lu, pour ne pas dire interprété, par Caroline Canella.
Que tout devienne noir. Que tout devienne clair, que tout reste gris. C'est le gris qui s'impose, pour commencer, étant ce qu'il est, pouvant ce qu'il peut, fait de clair et de noir, pouvant se vider de celui-ci, de celui-là, pour n'être plus que l'autre. Mais je me fais peut-être sur le gris, dans le gris, des illusions. Comment, dans ces conditions, fais-je pour écrire, à ne considérer de cette amère folie que l'aspect manuel? Je ne sais pas. Je pourrais le savoir, mais je ne le saurais pas. Pas cette fois-ci. C'est moi qui écris. Moi qui ne puis lever la main de mon genou. C'est moi qui pense, juste assez pour écrire. Moi, dont la tête est loin. Je suis Matthieu et je suis l'ange. Moi, venu avant la croix, avant la faute, venu au monde, venu ici. J'ajoute, pour plus de sûreté, ceci. Ces choses que je dis, que je vais dire, si je peux, ne sont plus, ou pas encore, ou ne furent jamais, ou ne seront jamais. Ou si elles furent, ou si elles sont, ou si elles seront, ne furent pas ici, ne sont pas ici, ne seront pas ici, mais ailleurs.
Beckett. Alors avant de parler de votre rencontre avec Samuel Beckett, Michel Crépu, cette première rencontre avec son texte, et donc d'où l'extrait de L'Innommable.
Oui, et le fait d'entendre ces phrases de L'Innommable, qu'on a l'impression d'entendre pour la première fois, c'est absolument extraordinaire, mais c'est ce qui m'a naturellement saisi, alors que étudiant, j'ignorais tout de ce texte, et notamment de ce livre, L'Innommable, qui a été pour moi particulièrement important. Et puis il y a aussi une chose qui...
Mais comment il résonnait en vous, ce texte?
J'étais saisi par l'immédiateté de ce texte, en fait. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'arrière-plan. Tout est là sur la page. Et tout a en même temps une profondeur. C'est ça qui est incroyable. Et je ne connais pas, d'ailleurs, je ne connais pas d'autres écrivains qui puissent nous donner cette sensation que Beckett nous donne, d'être à la fois dans l'immédiateté la plus immédiate, la plus radicale, le sens du fait, comme je disais tout à l'heure, le fact, et en même temps une incroyable dimension. On a l'impression d'être dans l'espace, on a l'impression de traverser le cosmos. Enfin, c'est à la fois la clôture, le lieu clos, l'endroit où la voix parle, où la bouche parle, et en même temps une sorte de sensation d'immensité qui est tout à fait vertigineuse. Donc l'émotion et la sensation de lecture là sont absolument intactes.
S'il fallait partir du titre de votre ouvrage publié chez Arléa, donc Beckett, 27 juillet 1982, 11h30, donc la date où vous allez rencontrer Samuel Beckett, ce jour-là, à 7h précise, quel est votre sentiment sur Samuel Beckett? Alors, parce que vous avancez avec une certaine pudeur, vous dites que c'est pas tant mon grand écrivain préféré de tous les temps, de tous les univers. Oui. À la limite, si je vais le voir, c'est parce que lui-même, il a rencontré Joyce. Oui. Comme si c'était une manière à vous de vous protéger de quelque chose.
Sans doute, il y a du vrai dans ce que vous dites. La chose qui m'a le plus frappé sur le moment même et qui m'est restée 40 ans plus tard, c'est une sensation de douceur, très bizarrement, enfin, qui m'a surpris parce que les photos que nous connaissons de Beckett, et il y en a beaucoup, ce sont des photos en noir et blanc et qui nous montrent un visage d'aigle, un visage d'aigle royal, comme l'image d'ailleurs l'est dans l'innommable. Je suis le grand-duc assis dans sa volière. Hein. Alors on pense à ça. Et puis on se trouve en face, en effet, d'un aigle, mais d'un aigle doux, dont les yeux sont bleu pâle et non pas du tout des yeux qui vous dardent et qui vont vous voilà vous saisir. Il y a une sorte de très grande douceur et de très grande attention à son interlocuteur. J'étais très touché à ce moment par la manière très très courtoise, sans appuyer, de prendre des nouvelles de mon travail universitaire qui n'avait absolument aucun intérêt naturellement. Et donc ça, c'est ce qui m'a le plus touché en fait. C'est la douceur et l'attention.
Samuel Beckett fought the Germans all through the Second World War. I saw him last month on a bus to Chicago. Don't know what he's going there for. I saw him get on with the look of an eagle. I studied the lines on his face. He was reading about cricket, chess and Picasso, and running away from this place. If you see Sam, won't you say hello and give him the best from me? Oscar, won't you say hello and give him the best from me? Oh yeah. Now that this winter hidden all sinners, me, I'm just a traveling man. You're wondering why I met three giants of literature wandering across this long, lonesome land. Just keep your eyes open, 'cause you never know who you might see. If you see one of them, won't you say hello and give him the best from me? If you see one of them, won't you say hello and give him the best from me? If you see one of them, won't you say hello and give him the best from me? If you see one of them, won't you say hello and give him the best from me?
Et on partage la même passion avec Andy White qui chantait Samuel Beckett. Michel Crépu, pour la sortie de son essai sur Beckett, Beckett, 27 juillet 1982, 11h30. Michel Crépu, quelle place a vraiment Samuel Beckett dans votre bibliothèque du cœur?
C'est une place centrale, une place de proximité, même si je peux rester longtemps sans le revoir. Mais il est évident que sur les 40 années qui viennent de s'écouler, la voix de Beckett ne m'a jamais vraiment quitté, et c'est une voix de singularité profonde et sans égale. Ça, c'est certain, oui. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
Alors, sur l'œuvre de Beckett, il y a aussi votre vie. Votre essai questionne votre relation avec cet auteur. On l'a dit en début de ce réveil culturel que vous avez convoqué, y compris le personnage qui n'a absolument rien à voir avec l'œuvre de Beckett, qui est celui de votre grand-père. Mais il y a d'autres écrivains que vous citez, comme si Beckett devait, au moins dans votre cœur, Michel Crépu, être le frère d'un Kafka ou d'un Proust, alors que c'est tellement différent.
Oui, non, je n'ai jamais pensé à une fraternité de cet ordre. Les références qui viennent naturellement s'imposer comme Kafka ou Proust, c'est tout simplement parce qu'en effet, il y a une sorte de parenté profonde dans les enjeux, dans les personnages de Kafka sont des personnages qui ont aussi, comme les personnages de Beckett, une relation très particulière avec la loi, avec la façon dont les choses se passent dans ce monde. Mais et donc c'est très normal aussi que Proust, sur qui Beckett a écrit un essai qui a été traduit il y a assez peu de temps finalement, qui a écrit directement en anglais, le personnage de Proust évidemment est, et dans son rapport à la temporalité, le fait que tout, que le temps soit le grand théâtre de la littérature, naturellement, est quelque chose qui ne pouvait pas ne pas intéresser profondément Beckett.
Mais aujourd'hui, par exemple, Michel Crépu, entre Joyce et Beckett, s'il fallait choisir un seul auteur à emporter dans une île.
Non, je prends les deux. Et si vraiment, vraiment, il fallait choisir, non, mais il ne faudra pas, ce n'est pas nécessaire, je prends les deux. Ou alors je reste, je ne pars pas. Les deux, c'était la raison pour laquelle, en effet, j'avais sollicité cette rencontre avec Beckett, et qui m'a valu une réponse que j'attendais, qu'il avait déjà donnée à des milliers d'étudiants, donc c'était sa courtoisie qui faisait qu'il acceptait de répondre encore une fois à cette question, mais pourquoi Joyce fait le contraire? Mais évidemment, je ne peux pas, on ne peut pas faire la même chose que Joyce, on ne peut pas aller, il n'y a pas de place pour faire un deuxième Finnegan's Wake ou un deuxième Ulysse, donc il faut prendre des décisions radicales là, dans ce genre de situation. Et Beckett a bien eu raison, naturellement, de prendre la direction opposée, d'aller là où Joyce allait vers l'apothéose, la polyphonie, le baroque, pour employer des catégories difficiles à manier. Beckett a choisi le minimal. Mais c'est très intéressant aussi de voir que tout ça est aussi lié à un arrière-plan esthétique et religieux. Joyce est aussi catholique, baroque, que Beckett est profondément protestant et dans une sorte de rigueur et de, il dit dans le morceau de l'innommable que vous avez donné à lire tout à l'heure, il est question du gris, je suis dans le gris, et c'est ce gris magnifique, sublime du puritanisme qu'il a connu en Irlande et qu'il a peut-être voulu fuir aussi, hein. Il y aurait tout un développement à faire sur cette couleur du gris qui est une couleur de la, une certaine couleur de vérité, et en tout cas que Beckett a admirablement fait résonner dans sa propre langue. C'est incroyable.
Michel Crépu, vous qui êtes écrivain essayiste, mais aussi critique littéraire, je sais que vous êtes aussi un grand mélomane. S'il fallait trouver un équivalent dans la musique à Samuel Beckett?
Très, très difficile. Je pense que j'irai chercher du côté des Français, Roussel, des contemporains de Debussy, mais qui n'ont pas la notoriété de Debussy, à qui je ne pense jamais quand je lis Beckett. Oui, Albert Roussel, ou bien des pièces de clavecin très très sobre, très très minimal. Enfin, je pense à ça, une musique du XVIIe siècle. C'est quand même, de ce point de vue-là, il faut quand même dire que il y a des archives qu'on peut consulter. Parce que je ne l'ai pas fait parce que c'était pas mon désir. Mais un travail a été fait récemment à partir d'archives qui sont conservées à Trinity College à Dublin, qui est des archives Beckett. Et on voit que Beckett s'est beaucoup intéressé à un philosophe du XVIIe, un contemporain de Descartes qui s'appelait Gueulincx, que personne ne connaît. Et il y a peu de chances qu'il soit jamais, qu'il revienne jamais sous les lumières. Mais pour Beckett, c'était très très important cette histoire de l'esprit, cette histoire de la philosophie d'avant le monde moderne en réalité, le XVIIe siècle, que j'ai fréquenté beaucoup en m'occupant d'un autre écrivain qui est Bossuet, qui est loin d'être sans rapport avec Beckett. J'ai bien vu que les grands réseaux d'influence souterrains d'une œuvre comme celle de Beckett ne passent absolument pas du tout par les textes modernes ou d'avant-garde, etc. Pas du tout. C'est la philosophie du XVIIe, c'est les mystiques du XVIIe, c'est grand, beaucoup, beaucoup ce moment-là, ce moment d'histoire de l'esprit où la philosophie et la mystique sont encore intimement liés, ce qui ne seront plus après, une fois que le XVIIIe siècle aura eu lieu et la Révolution et tout ça, toute une histoire.
Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, au niveau de la spiritualité, Michel Crépy, avant tout, de vous laisser partir?
Je suis resté là où j'étais il y a 40 ans, complètement saisi par le phénomène de la transcendance qui se joue dans des grands textes ou des musiques. J'aurais pu aussi parler de Bernanos, qui n'a rien à voir avec Beckett, mais qui a à voir avec une confrontation de la personne, du corps et de l'esprit et de la transcendance. Je ne vois pas de raison d'avoir renoncé à me tenir à cet endroit-là en attendant toujours une sorte de non pas de réponse, la réponse m'intéresse peu, pas, mais voilà, on est là.
Comme Godot. Dans la collection La Rencontre, éditée par Arléa, Beckett, 27 juillet 1982, 11h30. Merci Michel Crépy d'être venu ce
Merci
matin nous en parler.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. À lire dans ce nouveau numéro, À quoi bon la littérature dans un monde d'images? De Christine Angot à Naomi Wallace, plus de 50 écrivains répondent. Un dossier exceptionnel. Au sommaire également, une sélection de 30 romans essentiels pour comprendre notre temps, La crise sociale par l'historien Gérard Noiriel, une masterclass avec Griette Satouf et un grand entretien avec Alain Touraine. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie. 10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herler.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Super Fail. C'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herler,
en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Impôts, pensions alimentaires, RIP, quelles sont les pistes envisagées par Emmanuel Macron pour sortir de la crise des gilets jaunes? Élément de réponse dans un instant, le chef de l'État, lui, doit s'exprimer ce soir à 20h. Dans cette édition, nous nous pencherons aussi sur le Rassemblement national. Alors que la campagne pour les européennes est officiellement lancée aujourd'hui, le RN présente un manifeste pour des frontières nationales et des frontières européennes, vous l'entendrez. Et puis, dans quel état d'esprit se trouve Erol Underoğlu, représentant de RSF en Turquie? Le journaliste risque de la prison ferme pour avoir défendu un média kurde. Nous l'avons rencontré. Pendant plusieurs mois, vous avez échangé et nous vous avons écouté. Demain soir, je vous réponds. Ces mots sont extraits de la vidéo mise en ligne hier soir par Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Le président va donc prendre la parole ce soir à 20h pour définir les chantiers d'action prioritaires et les premières mesures concrètes selon le communiqué de la présidence. Nous sommes 5 mois après le début de la crise des gilets jaunes. Des annonces donc perçues par ses proches comme le point de départ de l'acte 2 du quinquennat Macron. Stéphane Goyer, nous avons déjà quelques pistes sur ce qui pourrait être dévoilé ce soir.
L'une des pistes les plus concrètes concerne la fiscalité, avec du changement à prévoir du côté de l'impôt sur le revenu. De nouvelles tranches pourraient être créées en bas du barème d'imposition, de tranches fixées a priori à 5 et 10% d'après les informations recueillies par nos confrères du journal du dimanche. Autre dossier qui pourrait évoluer, les retraites après l'annulation de la hausse de la CSG pour les plus en difficulté. Emmanuel Macron pourrait proposer une réindexation des petites retraites sur l'inflation, mesure qui irait à contre-pied du plafonnement de la hausse des pensions à 0,3% au 1er janvier, quand l'inflation était-elle d'1,8%. Et pour les mères célibataires, l'exécutif réfléchit aussi à créer un système visant à garantir le paiement des pensions alimentaires. Ces réformes ne constituent qu'une partie des pistes envisagées, une partie du volet fiscalité, une réponse à l'exaspération fiscale des Français, d'après les mots utilisés par le Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière. Côté institution, plusieurs pistes sont également à l'étude, avec pourquoi pas un passage à 20% de proportionnel pour les prochaines législatives au lieu des 15 envisagées jusque-là. Les ex-présidents, premiers ministres et ministres pourraient, eux, voir leurs avantages supprimés. On parle ici des chauffeurs ou encore des locaux mis à leur disposition à la fin du mandat. Mais si des mesures concrètes sont bien attendues, comme le précise le communiqué de l'Élysée, pas question pour autant de changer de ligne directrice. Le référendum d'initiative citoyenne, tout comme le retour de l'impôt sur la fortune, semble d'ores et déjà écarté.
Et ajoutons qu'après cette allocution prévue ce soir, mercredi, c'est-à-dire après-demain, le chef de l'État expliquera ses choix dans une conférence de presse. Emmanuel Macron qui clôt donc le grand débat national le jour du début officiel de la campagne pour les européennes. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, va contrôler l'égalité de la diffusion du temps de parole pour les partis candidats. Ils sont 14 à s'être déclarés actuellement. Les listes peuvent être déposées jusqu'au 3 mai prochain. La plupart des partis n'ont d'ailleurs pas fini d'attribuer les 79 places par liste. C'est le cas par exemple du Rassemblement national, dont on ne connaît pour le moment que les 12 premiers noms de la liste. Le RN proposera ce soir un manifeste pour une alliance européenne des nations, Anne Fauquemberg.
Ils seront deux ce soir à présenter ce manifeste à deux pas du Parlement européen. Hervé Juvin, le nouveau théoricien du Rassemblement national numéro 5 sur la liste pour le scrutin du 26 mai, et Nicolas Bay, eurodéputé sortant, placé en 7e position. Ce texte de 80 pages, Marine Le Pen l'a présenté il y a 10 jours à Paris à Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. Il n'a pas encore été validé par la Ligue ni par les autres partenaires du RN comme les Flamands du Vlaams Belang ou les Grecs de Neadexia, mais il a été traduit en anglais dans une version courte pour le diffuser au sein de l'Union européenne, explique Philippe Olivier. Parmi les propositions phares, le conseiller spécial de Marine Le Pen cite la création d'une RNE, d'une responsabilité nationale pour les entreprises. Une mesure, explique-t-il, qui s'adresse aux gilets jaunes qui demandent de savoir comment l'argent public est dépensé. Il s'agirait donc d'établir de nouveaux critères pour attribuer les marchés publics. Regardez, par exemple, si l'entreprise n'emploie pas de travailleurs détachés et ne délocalise pas ses emplois. Le Rassemblement national internationale qui se prononce également contre le libre-échange en y opposant un discours écologiste et localiste, discours égrené dans la tournée des mini-meetings qui se poursuivent dans les petites villes où se rendent depuis plusieurs semaines les candidats RN aux européennes. Le tout sous-tendu par une base identitaire sur la règle du « et des frontières nationales et des frontières européennes. Les éléments de langage sont en train de se roder.
L'attachement aux frontières nationales, le parti eurosceptique des vrais Finlandais en fait aussi un argument de campagne et il semble avoir été entendu. En Finlande, donc, ce parti d'extrême droite anti-immigration arrive deuxième aux législatives, deuxième à 0,2% seulement des vainqueurs sociaux-démocrates. Le scrutin a eu lieu hier. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu hier au Caire le maréchal Haftar, dont les forces tiennent l'est de la Libye et cherchent toujours à prendre Tripoli. De violents combats ont encore eu lieu ce week-end en Libye, à 11 km de la capitale. Selon les Nations Unies, l'offensive d'Haftar a fait 121 morts en 10 jours, 561 blessés au moins. L'ONU estime par ailleurs que plus de 13 600 personnes ont déjà fui leur domicile. Le verdict pourrait tomber aujourd'hui, lundi, dans le procès du représentant de Reporters sans frontières en Turquie. Erol Onderoğlu et deux autres défenseurs des droits humains sont poursuivis pour propagande terroriste, apologie d'un crime et incitation à commettre un crime. Le crime en question est d'avoir pris part en mai 2016 à une campagne de solidarité avec un quotidien kurde. Il risque plusieurs années de prison. À Istanbul, notre correspondante Anne Andlauer a rencontré Erol Onderoğlu à quelques heures du verdict.
Depuis presque 3 ans, il rechignait à évoquer son procès par crainte d'attirer l'attention sur son cas personnel. Désormais, le journaliste Erol Onderoğlu, représentant de RSF en Turquie depuis 23 ans, se dit pressé d'en finir.
Non seulement ça représentait un des dossiers parmi les centaines que je suivais et ça me gênait pas mal, mais il est inévitable que le dossier s'approche de vous au fur et à mesure que vous vous approchez du verdict parce que vous reprenez conscience du fait qu'il y a des conséquences familial, professionnel, peut-être des mois enfermés derrière 4 murs, etc.
Et Roland Derolou risque en réalité jusqu'à 7 ans et demi de prison pour 3 articles publiés dans le quotidien kurde Özgür Gündem, interdit en août 2016. Lui qui, rapport après rapport, fait état de la disparition de la liberté de la presse et de l'indépendance judiciaire en Turquie, ne se fait aucune illusion. Son pays semblait pourtant promis un tout autre avenir.
Un pays si dynamique pour un rapprochement avec l'Union européenne, etc., se retrouve désormais à un nettoyage idéologique. La société civile, les journalistes critiques, eux, prennent leur part de cette répression. Bon, ce qui nous reste, c'est de faire valoir nos droits, c'est de faire valoir les valeurs. Et on paiera s'il le faut, bien évidemment.
Dans le dernier classement de la liberté de la presse publié par RSF, la Turquie occupe la 157e place sur 180 pays. Une chute de 60 places par rapport à 2005, année où l'Union européenne a officiellement ouvert les négociations d'adhésion avec Ankara.
Les manifestants au Soudan sont appelés à continuer le mouvement de contestation. Ils demandent toujours pacifiquement à faire partie du processus de transition après l'éviction du président Omar el-Béchir. Depuis une semaine, l'armée soudanaise a pris le pouvoir. Il s'est exprimé à 120 mètres de profondeur. Le président des Seychelles a plaidé hier en faveur de la protection des océans, estimant que l'humanité est à court d'excuses et de temps. Il parle d'un moment historique pour les Seychelles, un archipel de quelque 115 îles. L'année prochaine, 30% de leur superficie marine seront classées en zone protégée. L'environnement à protéger, on en parle aussi à Paris, au cœur du bois de Boulogne. La fondation Good Planet a rouvert ses portes ce week-end. C'est une structure créée par le photographe Yann Arthus Bertrand qui entend défendre la biodiversité. Avec les ateliers mis en place dans sa fondation, il espère ainsi toucher les citoyens face au réchauffement climatique.
Les scientifiques nous parlent de la 6e extinction. Chaque année, on parle de la dernière fois qu'il y a eu autant de CO2 dans l'atmosphère, c'était il y a 3 millions d'années, à l'époque où il y avait des arbres en Antarctique. Donc quelque part, voilà, on se rend bien compte qu'on ne pourra pas arrêter le changement climatique. Que cette espèce de religion de la croissance dans laquelle on est embarqué, on ne peut pas l'arrêter. Parce qu'on dépend tous de la croissance et tous les pays dépendent de la croissance. Et cette notion de vivre mieux avec un peu moins, voilà, ce n'est pas dans l'air du temps du tout. Donc les gens, aujourd'hui, se sont bien rendus compte qu'ils ont l'impression que ce qu'ils font ne sert pas à grand-chose, parce que c'est vrai que d'année en année, les chiffres sont de plus en plus mauvais. Et en même temps, je pense que c'est important de savoir que tout ce qu'on fait n'est pas inutile. Et l'idée ici, c'est un peu de ça, c'est parler de ça. C'est parler aussi bien des abeilles que des réfugiés, savoir qu'on peut tous faire quelque chose. Il y en a qui peuvent faire beaucoup plus, il y en a qui vont faire moins, mais ce qui est important, c'est de faire et de se rendre compte. Voilà, c'est tout simple. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler à des gens ici qui n'ont pas forcément une vision positive de l'écologie, une position assez sectaire de l'écologie, alors que l'écologie, nous, on essaye d'avoir une écologie pleine de bienveillance, d'empathie, de gentillesse, de compassion. Alors, c'est peut-être un peu ridicule et nounouche, mais je crois beaucoup que ces valeurs sont importantes dans le monde d'aujourd'hui.
Des propos recueillis par David Ravier, c'était Yann Arthus-Bertrand. La météo sur l'Hexagone ce lundi, le ciel s'annonce plutôt lumineux sur l'ensemble du pays, même si une perturbation va arriver cet après-midi par l'ouest. Comptez 6 degrés à Besançon ce matin, 9 degrés à Lyon, 10 à Paris et Rennes, 16 à Marseille. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Vous nous avez rejoint pour votre journal des idées et vous revenez ce matin, Jacques, sur le débat autour de la commission d'enquête sur le rôle de la France dans le génocide au Rwanda. Elle ne comporte aucun spécialiste de cette histoire.
Mais oui. Alors il s'agit d'étudier, Clara, donc vous le savez, les archives françaises classifiées sur notre engagement militaire au Rwanda entre 1990 et 1994. Pardon, l'historien Vincent Duclerc, qui a été nommé à la tête de cette commission, justifie ainsi sa composition dans les pages idées de Libération, avec elle le génocide des Tutsis est assumé bien au-delà des cercles étroits des spécialistes, comme en avait ouvert la voie le grand historien de la solution finale, Raoul Hilberg, au terme de la réédition de son livre majeur, La destruction des Juifs d'Europe. Vincent Duclerc, chercheur à l'EHESS, enseigne à Sciences Po l'histoire globale des génocides. Il estime que, je cite, le caractère inflammable des milieux spécialisés sur le génocide des Tutsis et les clivages passionnels qui séparent les chercheurs aussi bien que les militants sont à l'origine de la grande prudence consistant à tenir cette commission à l'écart d'une violence qui risquerait de la paralyser. Isabelle Bacouche et Marianne Matar-Bonucci reviennent dans Libé, donc, quant à elles, sur l'étonnement provoqué par l'absence de spécialistes du génocide au Rwanda dans cette commission et même de spécialistes du continent africain. Imagine-t-on un comité destiné à faire la lumière sur le rôle de la France dans la déportation des Juifs sans aucun historien du régime de Vichy? Connaître les mécanismes de la Shoah ou du génocide arménien dispenserait donc du long travail d'apprentissage de l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs, de la connaissance des langues vernaculaires et des enjeux politiques complexes de cette région. Les historiennes dénoncent notamment l'absence de deux des spécialistes les plus légitimes sur la question. Hélène Dumas, chargée de recherche au CNRS, est l'une des rares à maîtriser le Kinyarwanda. Et Stéphane Audouin-Rouzeau, directeur d'études à l'EHESS, elle pointe l'influence d'un champ de recherche venu d'outre-Atlantique et qui suscite de nombreuses réserves, les Genocide Studies. S'il peut être utile de comparer les différents génocides pour en préciser la connaissance, l'approche globale n'est pas nécessairement un progrès scientifique dans la mesure où elle aboutit souvent à des querelles taxinomiques en l'absence de définition consensuelle. Et d'un point de vue citoyen, elle ne facilite pas la prévention, objectif destiné à légitimer ce champ académique. Dans l'enseignement, par exemple, cette approche globale encourage la concurrence victimaire et ses dérives, car elle tente à effacer les caractéristiques propres de chacun de ces événements et la compréhension des processus spécifiques qui les ont engendrés. Les génocides des Arméniens, des Juifs et des Tutsis sont incompréhensibles si l'on ne prend pas en compte plusieurs décennies ou siècles d'hostilité à matrice nationale, ethnique ou religieuse. D'autant que, en l'occurrence, comme le souligne David Servenet dans la revue du Crieur, cerner les contours du dernier crime de masse du XXe siècle suppose de progresser au milieu d'une grande confusion intellectuelle, de blocages politiques, de silence militaire et de pièges tendus par les révisionnistes. L'enjeu est de taille pour notre pays, d'abord soupçonné d'avoir soutenu une dictature à bout de souffle, puis choisi le camp le plus extrémiste, celui des partisans du génocide, puis financé, armé et entraîné les principales forces armées du régime et enfin couvert la fuite des ministres et généraux du gouvernement intérimaire rwandais au motif d'une opération humanitaire, la patrie des droits de l'homme se trouve dans une position pour le moins inconfortable depuis 1994. Le journaliste, auteur de deux livres sur le génocide, dont l'un sur l'implication de la France, rappelle que dès le début, le contrôle de l'information a été un objectif stratégique des génocidaires, avec le meurtre de 46 journalistes rwandais, dont 20 Hutus, soit environ la moitié de la profession. Quant aux nôtres, ils étaient de longue date encadrés par les autorités, sans même la possibilité de se rendre sur les sites des massacres antérieurs, sorte de répétition préparatoire au génocide. D'où une confusion dont la presse française s'est fait l'écho, au grand bénéfice des négationnistes. L'historien François Robinet l'a bien repéré en étudiant le corpus des articles, les journaux, radio et télé de l'époque, d'où une vision très partielle des faits, à l'exception de quelques titres comme Libération ou Le Figaro, qui a parfois eu tendance à euphémiser les responsabilités des bourreaux, tout en servant les intérêts diplomatiques d'un acteur au jeu particulièrement ambigu, la France. Sur le site AOC, l'historien Rémi Cormand évoque le travail d'histoire et de mémoire entrepris au Rwanda, où la majorité de la population a moins de 20 ans et n'a pas connu le génocide. Basé sur l'étude des archives, il ne porte plus seulement sur le génocide des Tutsis, mais a élargi la focale à l'histoire controversée de la guerre civile. Comme disait Vladimir Jankélévitch, pour pardonner, il faut se souvenir. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, les élections législatives en Finlande.
C'est ça, et la Finlande à la croisée des chemins politiques, peut-être avec les sociaux-démocrates en tête de ces élections législatives. Hier, ils font leur grand retour au pouvoir après 20 ans. L'extrême droite des vrais Finlandais progresse aussi fortement. Cependant, la Finlande vire donc à gauche, mais avec quelle possibilité de gouverner, ce n'est pas évident. On voit ça avec vous, Louis Clerc. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes docteur de l'Université de Strasbourg et professeur en histoire contemporaine à l'Université de Turku en Finlande. Alors, les scores, ce sont 40 sièges pour les sociaux-démocrates, le SDP, 39 pour les vrais Finlandais, le parti d'extrême droite. Chacun contrôle donc un cinquième du Parlement, alors que le centre est le grand perdant de ces élections. C'est ce que déclare le premier ministre sortant, Juha Sipilä, qui se dit très déçu. Qu'est-ce que vous retenez d'abord, vous, sociaux-démocrates et vrais Finlandais? C'est le retour historique des sociaux-démocrates ou le fait que c'est une victoire très serrée?
Alors je retiendrai le fait que c'est une victoire très serrée. Donc c'est dans un sens une élection idéale, tout le monde a gagné, à part le parti du centre qui s'effondre et qui passe de 49 places à 31. Mais la gauche peut se targuer d'avoir remporté une victoire, non seulement les sociaux-démocrates, mais également les Verts qui ont plus 5 places, les sociaux-démocrates gagnent 6 places, etc. Mais ça reste insuffisant pour faire une majorité uniquement à gauche. Et en deuxième place, les vrais Finlandais reconstruits comme un parti d'extrême droite après leur problème de 2017, gagnent aussi énormément de sièges, essentiellement de la part des abstentionnistes qui se sont beaucoup reportés sur sur eux.
Oui, parce que les vrais Finlandais ont plus que doublé leur nombre de sièges par rapport à la précédente élection. Alors, vous l'avez dit aussi, tous les partis montent, donc sauf ce centre dirigeant, hein, le parti casque de Juha Sipilä. Est-ce que c'est lui le grand perdant de ces élections? Est-ce que la raison est claire aussi, c'est-à-dire sa politique économique qui a beaucoup été perçue comme une politique d'austérité ces 4 dernières années?
Clairement, oui. Et puis, il y a eu différentes affaires. La question de la réforme des régimes sociaux, de la réforme des systèmes sociaux qui s'est mis en place, qui a dans un état-providence comme la Finlande des ramifications assez importantes, non seulement dans le budget de la nation, mais aussi dans le partage des compétences entre l'État central et les municipalités, par exemple.
Alors ça, juste pour mémoire, c'était ce pacte de compétitivité, c'est ça, en 2016, cette réforme des régimes sociaux.
Non, ça c'est une autre réforme qui était censée faire économiser à l'État sur les régimes sociaux et transférer une certaine partie des régimes sociaux aux municipalités et aux organismes locaux. Et ça, comme le parti du centre est beaucoup un parti des régions, un parti des provinces, etc. Ça a eu un effet sur leurs résultats électoraux.
Parce qu'il y a eu une réforme de l'éducation également. On en parlait en préparant cette émission avec une semi-privatisation des universités. Vous diriez que ce centre et ce parti quesque a perdu une grande partie de ses soutiens avec cette politique qui visait à sortir quand même la Finlande de la récession à l'époque.
Oui, je pense que le parti du centre paye une politique économique qui n'a pas plu à ses soutiens traditionnels, qui se sont reportés soit sur le Parti social-démocrate, soit même sur l'extrême droite et sur les vrais Finlandais.
Et dernière chose sur le score, le fait que pour tous ces partis qui montent, il y a un score donc supérieur au sondage qui a été fait, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Alors le Parti social-démocrate fait un score un peu moindre que ce qui lui était,
sauf pour les sociaux, ouais, c'est ça,
prévu par les sondages, mais le Parti des vrais Finlandais, par contre, par exemple, si on les considère, la campagne avait commencé de façon extrêmement bonne pour les social-démocrates. Ils avaient des, on leur prévoyait une victoire assez claire, mais au fil de la campagne, les vrais Finlandais les ont rattrapés de façon très très progressive et on voit dans les urnes la façon dont ce mouvement s'est continué. Donc on va dire que la grosse surprise de ce scrutin, c'est la façon dont les vrais Finlandais ont réussi à rattraper les sociaux-démocrates au cours de la campagne. Après, il y a d'autres partis qui ont beaucoup monté, comme les Verts, par exemple, qui font leur meilleur score historique.
Ouais, les Verts qui gagnent, je crois, 5 places, c'est ça, par rapport aux précédentes élections. Alors, le fait qu'il n'y ait aucun parti, par contre, au-dessus de 20%, je disais, les plus grands contrôlent un cinquième du Parlement, qu'est-ce que ça implique pour les négociations de coalition à venir? Est-ce que ça veut dire qu'elles seront très longues, alors que Antti Rinne, qui est le chef des sociaux-démocrates, disait vouloir conclure avant fin mai quand même? Est-ce qu'il est trop optimiste?
Alors c'est la question du scrutin proportionnel. Comment est-ce qu'on va trouver une majorité avec cette configuration du Parlement? Rinne évidemment veut faire vite parce que il y a des échéances internationales, en particulier la Finlande va être présidente du Conseil européen à partir de juin, donc on essaie de faire ça. Il y a un exemple suédois aussi qui est une sorte de repoussoir. Les élections suédoises en septembre 2018 ont été suivies par des négociations gouvernementales qui ont duré presque 5 mois. Donc j'imagine que Rinne veut évidemment aller plus vite, mais comment trouver une majorité avec ce résultat des urnes, alors que finalement personne n'a véritablement un mandat clair pour diriger. Bon, ça va se jouer dans la semaine qui vient. Si la solution évidente qui apparaît, qui est une solution de grande coalition un peu à l'allemande entre les sociaux-démocrates et la droite modérée, si cette solution ne se met pas en place, alors tout est ouvert. On verra bien comment ça se...
Cette grande coalition qui se ferait avec donc les sociaux-démocrates et 4 autres partis sans doute, dont le fameux parti pivot, on pourrait dire les Suédois, le petit
parti suédophone.
Suédophone, elle atteindrait 133 sièges, donc ce serait largement la majorité. Mais il y a aussi la possibilité d'une coalition avec ces vrais Finlandais, là, le parti d'extrême droite. En tout cas, Antti Rinne ne l'a pas exclu du tout, même s'il déclarait avant l'élection qu'il voulait pas s'allier avec eux. Cette fois-ci, il parle de valeurs et il dit qu'on va discuter sur les valeurs. Qu'est-ce que ça signifie encore?
Oui, alors le parti de la coalition nationale, donc la droite modérée, a aussi parlé de valeurs, mais pour le moment, personne ne sait véritablement ce que ça veut dire. Je pense que ça serait assez difficile d'avoir les sociaux-démocrates et les vrais Finlandais dans un gouvernement, dans un seul gouvernement. Mais il y a aussi énormément de points communs en ce qui concerne la politique, la politique économique en particulier, etc., etc. Donc je pense que la gauche n'ira pas au gouvernement avec les vrais Finlandais. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est ouvert. Et je pense, d'après les déclarations qui ont été faites hier et ce matin, Le premier scénario qu'on envisage, c'est une grande coalition. Je pense que les partis se positionnent pour ça et ça va se décider dans les jours qui viennent.
Et alors, pour quelle politique ou programme possiblement applicable Antti Rinne avait déjà dit, nous devons trouver des moyens équitables de rendre la société finlandaise durable. Ça fait référence encore aux réformes qui ont touché la Finlande ces dernières années et qui sont en cours. Notamment, il y a une réforme du système sanitaire et social à venir, sachant que la population de la Finlande vieillit beaucoup. 26% de la population aura plus de 65 ans en 2030, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc le gros problème de la Finlande, c'est comment maintenir un état providence avec une population qui vieillit, une population qui travaille moins et des budgets qui sont pas dans le rouge, mais qui menacent de passer dans le rouge. Donc c'est le grand dilemme de ce pays. Alors la politique du parti du centre et du parti de la coalition nationale avait été une politique d'austérité, de couper les budgets, mais également de favoriser par une réforme du marché du travail plus d'emplois, un niveau d'emploi plus élevé, de façon à ce qu'on paye des impôts et qu'il y ait des rentrées, etc. etc.
Et ça avait fonctionné d'ailleurs, puisque le chômage a baissé de 9,3 à 6,7% grâce à cette...
De ce côté-là, c'est vrai que ça avait fonctionné, mais après, la baisse des budgets, enfin les coûts dans les budgets avaient été énormément critiqués, et on peut dire que si les électeurs de la coalition nationale ont accepté et on va dire soutenu cette politique en renouvelant la plupart des sièges de la coalition nationale, les électeurs du Parti social-démocrate sont aussi des gens qui ont voté contre cette politique. Donc a priori, avoir les deux dans le même gouvernement, ça va demander des négociations assez subtiles dans les semaines qui viennent. Alors la Finlande est un pays de coalition, donc on est habitué aux coalitions gouvernementales, et il y a un système de programme de gouvernement. Donc dans les jours qui viennent, on va commencer à discuter d'abord de la coalition et ensuite du programme de gouvernement. Et là, on verra comment ils arrivent à mettre en place leur compromis.
Bon, bah écoutez, ce sera à suivre cette semaine et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour vos explications ce matin, Louis Clerc. Je rappelle, professeur.
Merci à vous.
Merci, professeur en histoire contemporaine à l'Université de Turku. Et bonne journée.
Merci beaucoup.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Événement, journée spéciale Jean-Luc Godard, ce lundi sur France Culture. Olivia Gesbert.
C'est dans sa maison en Suisse qu'il nous a reçus. Ce cinéaste légendaire ne parle pas tout à fait la même langue que nous, écrit ses films au montage et pense avec ses mains. À 88 ans, il aime commenter l'actualité et prend un malin plaisir à la contradiction.
Mais les journalistes, vous voulez toujours avoir le dernier mot. On dit quelque chose, pof, vous dites « Ah bon, ça veut dire que ?» Moi je dis « Non ». Pas du tout.
Godard, pas suffisamment triste pour que le monde soit meilleur, mais toujours là pour le penser avec son cinéma et en parler.
Godard comme jamais, journée spéciale Jean-Luc Godard, ce lundi dès 7h et un dossier complet sur franceculture.fr. France Culture présente Manuscrits de l'extrême à la Bibliothèque Nationale de France. L'exposition réunit 200 manuscrits d'exception, souvent émouvants, rédigés dans des situations extrêmes. Enfermement, péril, passion ou folie. Auteurs célèbres ou inconnus, leurs mots font résonner jusqu'à nous les voix de destins hors normes. Des derniers vers d'André Chénier au pied de la guillotine, aux larmes de Marie Curie versées sur son journal, ces manuscrits sont d'abord des morceaux de vie. Manuscrits de l'extrême, jusqu'au 7 juillet à la BNF François Mitterrand à Paris. Un partenariat France Culture.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins avec Guillaume
Mais oui, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Voilà, je prends ce ton sérieux parce que j'ai cette question très difficile à poser.
Elle est sérieuse.
Sont-ils exaspérés fiscalement?
Effectivement, on en a entendu parler. Y a-t-il une exaspération fiscale en France? Alors, on peut bien sûr en parler sur un coin de comptoir au café du commerce. On peut aussi tenter d'avoir une approche précise des choses, car en matière d'impôts, il y a un indice, figurez-vous, on l'appelle le VCR. Le Voluntary Compliance Rate, qu'on pourrait traduire par le taux de consentement volontaire à l'impôt. Et oui, les économistes mesurent chaque année la manière dont les nationalités distinctes se soumettent volontairement aux impôts, ou bien au contraire, tentent de s'y soustraire. Et les résultats sont quand même assez étonnants. En tête des pays où on accepte très largement de payer des impôts, on trouve les États-Unis. Alors ça peut paraître paradoxal, dans un pays où l'État est réputé un ennemi, Washington est toujours trop gras, les Tea Party ont bien montré que l'impôt n'était pas un sujet consensuel, et pourtant, le taux de consentement à l'impôt est l'un des plus élevés au monde, de l'ordre de 83%. Il y a même eu un sondage réalisé en 2018 qui révèle que pour 88% des Américains, il n'est pas acceptable de tricher sur les impôts, ce qui a en revanche, avec un petit paradoxe, qui n'a pas empêché ces mêmes Américains d'élire un homme qui n'a probablement pas toujours été au clair sur ses impôts, mais c'est une autre question. Donc, un taux de consentement à l'impôt très élevé, tandis que l'Allemagne, au contraire, a un taux de consentement à l'impôt très bas, 67%, proche de l'Italie, qui est dernier de la classe avec 62%. Et la France ? Vous vous demandez où est la France pour un pays exaspéré fiscalement ? Eh bien, 75% des Français consentent à l'impôt, ce qui est très élevé. La Suisse se situe à 77% et l'Autriche à 74%. Tout ça pour vous dire que notre manière d'envisager la fiscalité, le français dissimulateur prêt à tout pour ne pas régler ce qu'il doit, bref, c'est amusant sur le plan folklorique, mais ça n'est pas exact. D'où cette question, si l'exaspération fiscale n'était pas tout simplement une question d'exaspération vis-à-vis de l'équité de ces impôts, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et si ce qui posait problème, ça n'était pas les impôts, mais leur répartition, un détail qui change absolument tout, il faudrait créer un autre critère, le taux d'équité de l'impôt.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et justement, aujourd'hui, on revient sur les fractures territoriales vis-à-vis des villages, de la France rurale, vis-à-vis également de la France délaissée, celle des petites villes, des villes moyennes en chute. On en parle avec l'historien Jean-Pierre Rioux et Vincent Jarousseau, photographe qui a fait un roman photo, Les Racines de la Colère. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite à tous un très bon réveil.